où l'évangile a fait des tas de choses, etc. Et si vous voulez, cet évangile a pénétré les couches de notre société, nos gouvernements, etc., etc. Et quelque part, bon, je suis pas un juriste, hein, donc je vous dirai des bêtises si je me penchais vraiment dessus. Mais si vous voulez, il y a des choses qui apparaissent dans notre pays qui étaient déjà dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, ça fait un bail, hein, 1500 ans avant Jésus-Christ, déjà il y avait des lois que nous avons repris en compte donc dans notre pays. Alors, dans la loi qui est donnée à Moïse, Dieu a donné des prescriptions de fonctionnement. Et ce qui est étonnant, c'est que pour l'époque, elles étaient très précises et très modernes. Des choses qui peut-être même nous surprendraient au XXIe siècle, parce que cela permettait de maintenir la justice sociale et économique parmi les fils d'Israël, parmi le peuple de Dieu. Dieu avait eu la sagesse de communiquer cela à Moïse, qu'il avait donc donné sous forme de loi. Alors, on verra deux, trois pensées ce soir. Et d'abord, on va voir la loi de Dieu pour une justice sociale et économique. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en Israël, dans l'Israël ancien, il y avait beaucoup, beaucoup de fêtes. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si on fait le cumul de toutes ces fêtes, en fait, ça faisait 3 mois de congés par an. C'est fou, hein? On n'est pas arrivé à cela. Il y avait le respect du sabbat, il y avait des tas de fêtes pour ceci, pour cela, constamment. Enfin, je pense ils passaient leur temps à faire la fête dans l'Ancien Testament, et ce qui faisait un cumul de jours chômés, si vous voulez, de 3 mois. Quelque chose de vraiment très, très important. Alors, Dieu avait institué des moments de rencontre annuelle, ce qu'on appelait les fêtes à l'Éternel. Elle réunissait tous les Israélites, tous de naissance. Les étrangers étaient associés à ces fêtes, les serviteurs et les servantes. Tout le monde y était associé. Et même les personnes en situation de précarité. C'est-à-dire, ce n'était pas la fête avec les gens qui étaient nantis, qui avaient tout ce qu'il fallait. Mais les orphelins, les veuves pouvaient assister à ces fêtes et se réjouir avec le peuple de Dieu, participer aux libations, enfin tout ce qui était fait à ce moment-là. Ces fêtes étaient l'occasion pour toutes les classes sociales de se rencontrer dans un même lieu choisi par Dieu. Donc elles se réunissaient régulièrement. Donc je ne vais pas les lister, elles sont très intéressantes, mais bon, ce n'est pas mon propos de ce soir. Et le but était d'abord d'adorer Dieu pour lui exprimer sa fidélité, sa reconnaissance. Les gens se réunissaient pour parler à Dieu, pour lui dire qu'il l'aimait, qu'il lui était reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait pour eux. En même temps, ça permettait de raviver la relation avec Dieu et aussi de se souvenir des hauts faits de l'Éternel quand la mer Rouge s'était séparée pour permettre aux gens de traverser la mer, lorsqu'il y avait eu la manne en abondance dans le désert, enfin, tous ces faits qui étaient un peu inscrits dans leur patrimoine, j'allais dire génétique, tous ces faits-là, qui étaient très très forts, étaient ravivés et on disait, ben voilà, il s'est passé ça à telle époque et les enfants étaient émerveillés, comme si on leur racontait une belle histoire, une histoire de la puissance et de l'amour de Dieu. En même temps, ça permettait d'entretenir les relations entre les diverses tribus d'Israël, puisque le territoire était grand, les tribus étaient dispersées de droite et de gauche, et les gens, ça leur permettait de se retrouver, de prendre des nouvelles et de garder une relation qui était certainement très forte, et bien sûr aussi de se réjouir ensemble. C'était donc des fêtes qui étaient là, auxquelles chacun était convié. La loi de Moïse, donc, ordonnait ces fêtes, ouverte à chacun. Personne n'était exclu, quelle que soit sa situation, son statut social, je dirais même son origine, puisque même les étrangers et les serviteurs, les servantes étaient acceptés. Mais il y avait également dans la loi des aides qui préservaient la dignité. Alors, je ne vais pas lire les textes parce qu'il y a pas mal de textes là-dessus. Je vais simplement vous les citer. Des aides qui préservaient la dignité humaine. Et au milieu du Lévitique 23, donc je ne sais pas si vous connaissez le livre du Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, etc. Donc le Lévitique va décrire des fêtes qui se passaient en Israël. Et au milieu de ces fêtes, il y a des pratiques simples pour aider les plus démunis. Par exemple, au verset 22 du chapitre 23 du Lévitique, bon, je l'ai dans mes notes, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Et Dieu d'ajouter, je suis l'Éternel, votre Dieu. Le principe du glanage. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Qui en a entendu parler? Levez la main. Le glanage. Le principe était celui-ci. Il y avait des champs, notamment, par exemple un champ de blé. Les cultivateurs venaient ramasser le blé, etc. Et ils avaient pour mission de laisser des endroits sur la parcelle où n'importe qui, notamment quelqu'un de démuni, pouvait venir manger, prendre à manger et récolter du blé de manière à pouvoir se nourrir. Pas mal. C'était déjà mis en place. Au XVIe siècle, dans notre pays, en France, donc c'était le roi Henri II, je ne sais pas si vous avez connu Henri II, donc après vous avez eu Henri III, puis après Henri IV. Hein. Voilà, dans l'ordre. Donc le roi Henri II, c'était en 1554, je crois, enfin, en tout cas au XVIe siècle, hein, au milieu, avait édité une charte qui disait que le glanage était permis dans tout le territoire de France, de partout, et qu'il était interdit de s'y opposer. Savez-vous que cette loi existe encore à l'heure actuelle? Et quand vous allez dans un champ de blé, vous allez cueillir des épis. Alors, je vous expliquais un petit peu après le cadre du glanage. Quand vous allez cueillir des épis, vous rentrez dans ce principe de glanage et vous obéissez à une vieille loi qui a presque 500 ans, hein, une loi du 16e siècle, qui permettait aux gens de l'époque de se nourrir. Alors, le glanage s'est cadré quand même. Hein. Vous ne pouvez pas pénétrer dans n'importe quel champ, commencer à arracher les cultures, vous emparer des gerbes de blé, du raisin ou autre chose. Hein. Vous êtes obligé de répondre à certaines exigences. Alors, en France, je vais vous expliquer. Si vous voulez glaner, si vous avez envie, c'est légal. Il faut attendre que les cultivateurs aient fait leur travail. Alors, par exemple, imaginez que c'est un champ de patates. Vous aimez les patates? Voilà. Vous imaginez un champ de patates. Le paysan a arraché ses patates, etc. Et puis, il sait qu'il y a des pommes de terre qui n'ont pas été ramassées. Et le principe, c'est qu'une fois qu'il a fini sa récolte, vous avez le droit d'aller manger, ramasser des pommes de terre. Alors, c'est cadré. Il faut y aller entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Parce que si vous y alliez avant, c'est de nuit. Donc, ça veut dire que vous êtes un petit peu un délinquant qui va pénétrer sur la propriété d'autrui. Donc, c'est cadré. Entre le matin et le soir, vous avez le droit de glaner, de rapporter la nourriture. Alors, si vous le faites, moi je vous conseille d'entrer en contact avec le cultivateur. Voilà, j'ai vu que vous aviez un champ, vous avez ramassé vos patates. Est-ce que vous me permettez d'aller glaner? Et sauf s'il y a une prescription municipale, parce que parfois les municipalités peuvent s'y opposer pour différentes raisons que je vous énumérerai dans quelques instants, mais vous avez le droit d'y aller. si vous êtes entre le lever et le coucher du soleil. Moi, je trouve ça, excusez-moi le terme, mais vachement intéressant. Vraiment intéressant. Alors, s'il y a des clôtures, vous n'avez pas le droit de les franchir. Sauf si dites au cultivateur, j'aimerais bien rentrer pour aller ramasser des pommes de terre qui feraient du bien à ma friteuse pour faire des frites. Alors, il peut y avoir des prescriptions où les municipalités interdisent le glanage. Par exemple, s'il y a certains animaux sauvages qui peuvent uriner sur des fruits, par exemple, on voit ça dans le sud de la France, des renards qui ont la rage, qui vont uriner. Du coup, si vous mangez cela et que les fruits ont été pollués, vous risquez d'attraper des tas de maladies bizarres et peut-être d'être enragé à l'égard de votre mari ou de votre femme. Voilà. Donc, en tout cas, c'était prévu. Et la Bible dit cela, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Et elle ajoute, je suis l'Éternel, votre Dieu. Moi, ça m'a intéressé de savoir ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de savoir que notre pays, quelque part, a suivi ces indications-là. Alors, vous pouvez glaner de tout, hein. Vous pouvez glaner du blé, etc., etc. Et dans la loi de Moïse, par exemple, vous aviez moissonné, et puis vous rentrez chez vous et dire, oh là là, j'ai oublié à tel endroit la parcelle, j'ai oublié de ramasser les gerbes. Eh bien, la loi vous interdisait d'y retourner. C'était pour le pauvre et pour l'étranger. Quand même, Dieu est un Dieu de miséricorde qui faisait bien les choses. Et là, on peut remarquer la sagesse divine, parce que le glanage procurait de la nourriture aux pauvres et en même temps favorisait l'insertion de l'étranger par le travail, tout en évitant la mendicité. C'est indigne, quand quelqu'un est obligé de mendier sa nourriture, eh bien la personne allait travailler, ramasser des récoltes de ce qui est resté, et à faire sa cuisine, etc., etc. Donc, ça préservait son indignité. Et puis, il y avait une volonté aussi de préserver l'équité et la durabilité. Dieu a un plan d'envergure, on le trouve dans le chapitre 25 du Lévitique. Et donc, il va donner des prescriptions très, très claires pour le pays dont les Israël vient de prendre possession. Par exemple, il va parler du repos de la terre. Tous les 7 ans, la terre devait se reposer. Donc, on n'avait pas le droit de l'ensemencer, on n'avait pas le droit de la cultiver, et ça permettait qu'elle se repose. Et aussi, ça permettait aux personnes d'aller glaner ce qui pouvait repousser. Nous, on s'est rendu compte, enfin, Hélène, c'est une planteuse. Donc, elle plante des pommes de terre. Savez-vous que vous mettez une dizaine de pommes de terre dans un champ, ben, constamment, constamment, ça pousse, vous les arrachez, et puis un beau jour, toc, vous voyez encore des patates qui sortent. Hein, je crois que la patate, c'est très vigoureux sous nos latitudes. Et là, des fois, Hélène ramasse des pommes de terre qui ont été plantées, je ne sais pas quand, dans la nuit des temps de la famille qui ont été oubliées. Alors, tous les 7 ans, il y avait une année sabbatique qui permettait le repos de la terre et en même temps pour les personnes d'avoir les ressources du sol. Tous les 50 ans, il y avait aussi autre chose. Tous les 50 ans, on annulait toutes les ventes de la terre. C'est-à-dire que si vous aviez acheté un terrain, alors je pense qu'il devait y avoir des tarifs dégressifs. Par exemple, vous achetiez une propriété, il restait plus que 10 ans avant ce qu'on appelait avant le jubilé. Quand le jubilé arrivait, vous étiez obligé de rendre la parcelle. Donc le prix était indiqué par rapport à cela. Et cette remise à zéro permettait de retrouver une répartition initiale des terres que Dieu avait distribuées. Par exemple, Josué, chapitre 14, dira ceci. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitant. C'est-à-dire que finalement, en Israël, tout le monde était étranger. Tu ne pouvais pas dire que l'autre était plus étranger que toi. Tu étais étranger, de toute façon, aux yeux de Dieu. Et le terrain que tu avais, la terre que tu avais, eh bien, si à un moment donné, tu l'avais acquise en l'achetant, à un moment donné, tu étais obligé de la rendre à son propriétaire initial, de manière à ce que les terres ne partent pas n'importe comment. Ce jubilé donnait une pleine liberté et une pleine jouissance des possessions à chaque famille. Parce qu'il pouvait y avoir des familles qui soient en difficulté et qui, pour essayer de subsister, vendaient ces terres. Parfois, les gens se vendaient comme esclaves. On verra dans quelques instants, justement, aussi des lois par rapport à l'esclavage. Et des gens, parfois, étaient tellement dans la misère à cause de conjonctures économiques, des faits de guerre, des faits de maladie ou autre chose, qu'ils perdaient la jouissance de leurs biens. Alors, la Bible nous dit ceci: si ton frère devient pauvre près de toi et s'en va à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être esclave de père en fils. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que malheureusement, la méchanceté humaine a contrarié tout à fait cela. Mais c'était limité dans le temps à cause du jubilé. Alors, du coup, il y avait une grande générosité et une grande bienveillance envers le démuni. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse auprès de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qu'il demeure dans le pays afin qu'il vive près de toi. Ça m'a frappé, ça. L'accueil à l'étranger qui se trouve dans la Bible. L'étranger a droit de cité, il est préservé, il est béni, il est gardé dans la nation d'Israël. Également, le prêt ne pouvait pas exister avec un intérêt. Quand vous allez à la banque, vous dites: bonjour monsieur le banquier, j'aimerais acheter une voiture, j'aimerais contracter un emprunt auprès de vous. Donc le banquier sort son sourire commercial le plus grand. Il va vous sourire, il va vous dire: pas de problème, j'en ai un, là, 8%, vous allez voir, il est vraiment très intéressant, etc. 8%, c'est cher. Ah oui, mais écoutez, il faut bien que je vive. Pour petite bête, parce qu'on se rend compte que les banquiers vivent tous très mal, quand on voit leurs immeubles, 14 mois de salaire, etc. Enfin, non, je ne sais pas, rentrer en politique contre les banquiers. Mais si vous voulez, tout cela va venir des intérêts. En Israël, l'intérêt n'existait pas. Tu ne tireras de ton frère ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne prêteras point d'argent à intérêt et tu ne prêteras point de vivre avec intérêt. Je ne trouvais pas que c'était intéressant, ça. Intéressant dans une société qui, finalement, cherche à faire du profit sur celui qui est pauvre, celui qui a des difficultés. Parfois, ça peut être étranger, ça peut être celui qui est en difficulté économique. Parce que Dieu va anticiper les accidents de la vie qui mènent à une précarité sociale. Il ne veut pas que des inégalités plonge les uns ou les autres dans une pauvreté de plus en plus grande et que d'autres en profitent pour s'enrichir. Finalement, c'est quoi la spéculation? C'est s'enrichir sur le dos de ceux qui ont besoin. Tu vas prêter de l'argent à quelqu'un qui a besoin et en lui prêtant cet argent, tu vas user d'un intérêt et malheureusement, tu vas t'enrichir sur son dos. Dieu prévoit une solidarité sociale bienveillante envers les démunis, une aide qui préserve la dignité et qui évite la spirale du surendettement. Étonnant, étonnant. Dieu était déjà conscient de ce problème et il concernait son peuple d'Israël. Alors, au-delà de la bienveillance pour son prochain, la motivation de ces instructions apparaît dans les expressions « Honneur au Seigneur, tu craindras ton Dieu, tu honoreras ton Dieu », etc. Et tous les Israélites, riches ou pauvres, ont une valeur égale pour Dieu. C'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ils ne sont pas esclaves des uns ou des autres, pas esclaves des hommes, pas esclaves de riches propriétaires. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte et je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà comment Dieu se présente dans ces cas de difficulté. Alors, comment le peuple de Dieu a-t-il mis en place cette loi, notamment la loi du glanage? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez à un exemple? Alors, comment le peuple de Dieu a-t-il mis en œuvre cette loi? Alors, je vais vous donner deux exemples. À l'époque des juges, c'était particulier. Il y avait un leitmotiv qui apparaissait constamment. À cette époque, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous avez déjà lu dans le livre des juges. Alors, il y a un homme qui s'appelle Boaz, et il va nous donner un exemple d'application de la loi sur le glanage que nous avons trouvé dans le Lévitique 23. Et avec cette bienveillance qui va éviter la mendicité à une femme étrangère, veuve, si vous voulez, qui, suivant le schéma de l'époque, était vouée à la destruction, au malheur, à l'endettement, etc., etc., eh bien, cette femme ne va pas connaître la mendicité ni tous ceux qui étaient dans son époque. Il va offrir à cette femme, alors comment s'appelle-t-elle? Si vous dites Ruth, vous avez trouvé juste. Qui dit Ruth? Ruth. Et sa belle-mère s'appelait Naomi. Elle n'a rien à voir avec la nôtre, mais s'appelait Naomi tout de même. Alors, Ruth est une jeune étrangère, une Moabite. Son peuple est plus ou moins maudit d'Israël. C'est une jeune veuve, son mari est décédé prématurément. Et par son accueil, il va l'aider à s'intégrer dans le monde du travail et dans la société d'Israël. À cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça apparaît constamment dans l'Évangile, dans le livre des juges. Il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et l'homme de Dieu, l'homme de foi, va appliquer la loi. Une loi qui va relever l'indigent, la veuve, l'étrangère. Il connaît la loi de Dieu et la met en œuvre. Il va autoriser cette jeune femme à venir glaner. Il ira même plus loin. Il interdira à ses moissonneurs de l'embêter. Parce qu'une femme seule, dans une société certainement où il y avait essentiellement des hommes qui étaient les moissonneurs, les cultivateurs, il leur dit, vous la laissez tranquille, tranquille. Et personne ne va y toucher. Et cette jeune femme va glaner, va rapporter de la nourriture à cette belle-mère qui s'appelle Naomi. Et bon, peu à peu, puis il va se passer tout un tas d'événements. Et surtout, il va y avoir quelque chose. En se mariant avec Ruth, cet homme, Boaz, va relever, c'était le terme utilisé, relever la maison du défunt. C'est-à-dire parce que, comme il était décédé, il fallait que quelqu'un épouse la veuve pour pas que les biens partent n'importe comment, qu'ils soient complètement dispersés. Et Boaz va user de ce droit dicté par la loi, qu'on appelait le droit du rachat, en se mariant avec Ruth de manière qu'elle ne perde pas son héritage. Ce qui fait que Naomi, la belle-mère, hein, qui était, si vous voulez, qui aurait dû être en possession des biens, va retrouver son héritage de son mari Elimelech. Ainsi, il y aura une pleine réinsertion dans la société pour cette veuve qui avait tout perdu. Je trouve pas qu'elle était bien faite, la loi, quand même. Quelqu'un qui était dans la plus grande précarité, on lui tendait la main. La loi avait prévu cela de manière à ne pas laisser tomber les gens. Alors, c'est un exemple de justice sociale et économique de l'époque. Par contre, il y a eu des exemples d'injustice sociale et économique. Vous rappelez de Salomon ? Qui a entendu parler de Salomon ? On a entendu parler de Salomon ? Salomon, qui est né avec une cuillère en argent dans les mains, peut-être même en or. Salomon, qui était très riche, qui était très considéré, un roi sage, un roi intelligent, un roi qui avait de grandes possessions. Si vous voulez, au bout d'un moment, ça lui a monté à la tête. Et il exigeait des impôts très lourds de son peuple. Et quand il est décédé, eh bien, les Israélites sont allés voir son fils, qui s'appelait Roboam. Ils lui ont dit, écoute Roboam, ton père nous a fait souffrir en nous criblant d'impôts. C'était particulièrement difficile, s'il te plaît. Veux-tu bien alléger notre charge de manière à ce que nous puissions enfin respirer un petit peu ? Et au lieu d'écouter la voix de son peuple, et notamment des conseillers qu'il avait auprès de lui, qui étaient des hommes pleins de sagesse, des hommes qui connaissaient le pouvoir, il lui avait dit, mais accède à la demande de ton peuple et tu verras, tu vas le gagner. Ils vont te suivre, ils seront heureux. Il a dit non. Il a pris conseil de ses copains de beuverie. Il a pris conseil auprès d'eux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ses copains lui ont dit, maintenant, tu resserres encore plus la vis. Dis-leur que ton père les a châtiés, mais que toi, avec toi, ça sera encore pire. Montre-leur que tu es un homme. Ben oui. Il a montré qu'il était un homme, sauf qu'il a divisé son royaume en deux parties. Partie du nord, qu'on appelait la nation d'Israël, avec les 10 tribus. La partie du sud, qui était la nation de Juda, avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Pour ça que les Juifs sont apparus, puisque les Juifs étaient les descendants de Juda et de Benjamin. C'est dommage. Dommage, au lieu d'écouter la voix de son peuple, faire preuve d'injustice sociale. Je crois que parfois on a intérêt à écouter les conseils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que des fois ils ne sont peut-être pas si bêtes que cela. Et là, il y a eu une grande rupture, je ne sais plus en quel siècle c'était. Faut que je réfléchisse. En tout cas, c'était une catastrophe et le peuple s'est complètement disloqué et c'était terrible. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant dans l'Église ? Paul nous dit que les barrières sociales et économiques ne doivent plus avoir cours dans l'Église. Curieusement, Paul ne prendra pas position contre le patronat, position contre les maîtres des esclaves. Ça m'a toujours surpris. La société de l'Antiquité, donc la société romaine, la société grecque, était faite avec les esclaves. L'esclavage était un fondement social de l'Empire romain. Et Paul n'a pas poussé les esclaves à la révolte. Il y a eu des révoltes fameuses d'esclaves. Hein. Vous avez entendu parler de Spartacus. Hein, Spartacus, ce n'est pas simplement qu'il avait des gros pistocos, c'est que c'était en même temps un révolté qui a fait trembler l'Empire romain à son époque. Et Paul ne va pas les pousser à cela. Il sait très bien que si les esclaves se révoltent, détruisent leur outil de travail, les exploitations, mettent à mort les maîtres, etc., en rien de temps, le pays va partir à la dérive. Au contraire, il va leur dire, travaillez. Il dira au maître, accordez à vos serviteurs, à vos esclaves, ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez aussi un maître dans le ciel. Finalement, Paul nous ramène tous dans une même égalité. Nous sommes tous des esclaves de Dieu. Et si ta condition est d'être riche, mais sois juste. Si ta condition, c'est d'être un esclave, sois un esclave, mais sois juste dans ton fonctionnement. Et Paul va rappeler une règle d'égalité qui va motiver la solidarité. Les enseignements du Nouveau Testament reprennent aussi des détails très pratiques de la loi. Par exemple, Paul n'a jamais parlé de l'histoire de Boaz et de Ruth. Pourtant, elle était intéressante, mais Paul l'a jamais mentionnée. Mais il va recommander la même attitude. Et l'attitude, c'était quoi ? Tu travailles pour manger. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Alors, ça nous pose problème. Mais n'empêche, c'est un principe édicté dans la loi de Moïse. Et Dieu avait mis en place tout un système de fonctionnement afin que les gens ne mendient pas. Moi, j'avoue, ça me fait quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand je vois quelqu'un de jeune. J'ai plus ce matin, il doit avoir des muscles comme ce n'est pas permis, qui est assis, il a même pas la force de tendre la main pour avoir de quoi manger. J'avoue que ça me pose problème. Je dis, mais enfin, c'est pas un être humain ne devrait pas mendier. Et peut-être que notre société, notre fonctionnement devrait aider l'individu à s'intégrer, à avoir un travail, à pouvoir se nourrir par son travail. Et puis Paul va donner des détails très pratiques. Il va nous dire par exemple que nos relations fraternelles ne dépendent pas de notre statut social. Et je rends grâce à Dieu parce que l'équilibre d'une église, c'est que tout le monde s'entende bien, indépendamment de la politique ou de notre statut social. Le salaire du travailleur doit être juste et payé en temps voulu. Quand vous avez travaillé et que vous avez votre salaire, ce n'est pas un privilège que vous avez, c'est quelque chose qui est normal. Si vous voulez, c'est comme un contrat, il y a un contrat moral ou écrit, comme vous voulez, qui fait qu'en échange d'un travail, une somme d'argent vous est donnée. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez ramper devant un patron. Ça n'a rien à voir. Il a droit au respect, il a droit à ce que vous lui parliez gentiment, etc., etc. Il a droit à ce que vous fassiez comme il faut votre travail, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes des carpettes. Et la Bible nous montre vraiment l'importance de garder sa propre dignité. En réalité, la motivation profonde de la solidarité de la Bible, c'est de vouloir plaire à Dieu. Nous désirons plaire à notre Seigneur. Alors Dieu est un Dieu de justice, j'ai terminé par ces quelques mots, et il a donné dans l'Ancien Testament de remarquables instructions pour que des mesures de justice sociale et économique soient mises en œuvre par son peuple. C'est vraiment bien, bien, bien cadré. Ça m'a intéressé de travailler ce thème. Je me suis dit, mais c'est vrai que les chrétiens ont souvent été précurseurs d'élan économique. Je suis en train de réfléchir, bon, je ne sais pas si je vais l'apporter. Si vous voulez, la manière dont le monde protestant dont nous sommes issus, avec les mouvements évangéliques, et le monde catholique voit l'assistance. C'est très, très, très intéressant. Il y a deux regards sur l'argent qui sont diamétralement opposés, je dirais. C'est vraiment très, très intéressant. Ça m'a passionné de commencer à travailler ça. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si je l'apporterai, mais en tout cas, ça sera pour moi. Que Dieu nous aide à être juste, que soyons remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. À la louange de sa gloire. Alors, je vous rappelle que le glanage existe toujours. Vous avez le droit. Avec Hélène, quand on avait nos, nos Coréens cet été. On a fait découvrir à nos amis les prunes. Savez-vous qu'il y a dans notre région des prunes à partir du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre? Bon, il faut un peu se bouger parfois. Faut pas avoir peur d'escalader un talus, de descendre dans un fossé, d'aller cueillir. Et vous avez des prunes superbes. Et si vous me dites, ouais, mais les fruits, c'est cher. Écoutez, moi, je peux vous expliquer un endroit où vous allez faire des cueillettes de prunes, où vous allez nourrir vous, votre famille, faire des confitures pour la nuit, des thons, tout simplement parce que c'est abondant. On est dans un pays d'abondance. Les pommes, on n'a plus qu'à. Non, il ne faut pas les cueillir, on n'a plus qu'à se pencher pour les ramasser. Les fruits, on n'a plus qu'à se pencher pour les ramasser. Voilà, c'est comme ça. C'est notre pays, on a cette abondance, profitons-en. Ne vous dites pas, oui, je n'ai pas d'argent pour acheter des fruits. Si, tu déplaces un petit peu, tu te remues un petit peu, tu vas travailler et tu auras des fruits en abondance. Voilà. J'en ai fini. D'ailleurs, on a des prunes avec Hélène tous les ans. Alors, souvent, on dit, bah, écoutez, tu ne voulais pas venir à la maison cueillir des prunes? Souvent, les gens nous disent, bah, on préférait que ce soit vous qui les cueilliez. Ben non, non. Celui qui ne travaille pas ne. Voilà. Donc, si vous voulez manger des prunes l'été prochain, venez à la maison et vous aurez le droit de cueillir comme il faut. Une année, on avait invité des amis à cueillir des prunes. Et puis le monsieur, il a commencé à faire des batailles de fruits avec son enfant. Je faisais des bonds en l'air. Dilapider la nourriture, j'étais indigné. Indigné. J'ai rien dit parce que je suis poli. Peut-être qu'à l'époque, j'étais peut-être plus timide. Mais j'étais indigné qu'on puisse prendre des fruits et les jeter tout simplement pour faire mumuse. Voilà. Alors, si vous venez à la maison cuire des prunes, on va cadrer. Avez-vous des questions à me poser? Si je peux y répondre. Ben écoutez, que le Seigneur nous aide et qu'on réalise. Si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, cherchez un petit peu tout ce que les chrétiens ont mis en place. Savez-vous que la Croix-Rouge a été mise en place, inventée par un chrétien? Il s'appelait comment ce chrétien? Henri Dunant. Henri Dunant était un chrétien d'origine suisse qui a inventé la Croix-Rouge, etc. Voilà, il y a des tas de choses qui sont intéressantes sur notre planète et qu'on a intérêt à découvrir. Allez, on prie ensemble avant de se séparer et on va demander au Seigneur de nous garder.